Êtes-vous le bon? Êtes-vous la brute? Êtes-vous le truand? Quel rôle endossez-vous dans vos conversations au quotidien? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies et plus heureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire dès à présent et à écouter les épisodes précédents. Cela m'aide donc à construire plus de contenu et plus de valeur pour vous. Cet épisode numéro 4 sera donc consacré au bon, à la brute et au truand afin de mieux identifier l'attitude, la posture et les intentions de nos interlocuteurs. C'est dans un instant, c'est sur ce podcast. Gardez l'écoute et à tout de suite. Que nous le voulions ou non, nos échanges, nos interactions, nos conversations consistent dans un jeu de rôle, dès le lever du jour jusqu'à la tombée de la nuit. Nous sommes le père, la mère, l'enfant, le mari, la femme, l'employé, le chef d'entreprise. Nous sommes le sparring partner, nous sommes le membre du groupe de musique, nous sommes l'agent du guichet de banque, nous sommes l'agent du guichet de la poste, nous sommes le vendeur en magasin, nous sommes aussi cet inconnu qui passe dans la rue. Nous le voyons, ces étiquettes sont nombreuses et diverses. Elles influencent nos attitudes en conversation, que ce soit sur le plan verbal ou le plan non verbal. J'ai choisi le bon, la brute et le truand en référence à ce classique du cinéma, de sorte à avoir des grandes lignes qui nous permettent de mieux appréhender les dynamiques d'interaction en conversation, surtout sur un plan énergétique, sur un plan de l'attitude. Quel est le rôle du bon en conversation? C'est intéressant de s'y pencher. Le bon a une énergie apaisante par son écoute, un savant mélange entre une écoute active et passive qui conduit à la compréhension, favorable à un terrain pour la bienveillance manifestée par un tour de parole équilibré suivant les enjeux et une distribution du temps valorisé. C'est-à-dire que lorsque nous avons en face de nous une personne qui endosse le rôle du bon, nous nous sentons complètement à l'aise, l'énergie est fluide, c'est paisible et ça coule de source. Qu'en est-il de la brute? Le rôle de la brute? Eh bien, j'ai envie de dire que, avant tout, c'est un tumulte émotionnel, une sorte de chaos dans lequel nous pouvons ressentir à la fois de l'attraction et de la répulsion parce que les objets du contenu de la conversation vont tour à tour sillonner entre des blagues, de la critique ou alors de l'agressivité en fonction du contexte et de l'objet. Cette conversation avec l'interlocuteur endossant le rôle de la brute va être aussi bien influencé par des comparaisons bien souvent accentuées avec le besoin de s'affirmer, le besoin de se mettre en avant. Le résultat en est que, au sortir de cette conversation, le sentiment qui nous anime peut être à la fois chaotique et perturbé. C'est ce qui relève d'une conversation avec pour interlocuteur un rôle placé sous l'égide de la brute. Le truand, dans son rôle donc de truand, représente en réalité une personne qui se trouve en déficit sur son compte bancaire émotionnel. Et donc, par cette situation, va devoir faire ses emplettes autour de lui pour retrouver un équilibre émotionnel. Je veux parler de ces interlocuteurs que nous avons, qui sont parfois dans une crise conjugale, une crise situationnelle, une crise personnelle, un état dépressif ou déprimé, et qui ont besoin de retrouver du réconfort, de la consolation, retrouver simplement de l'espoir pour à nouveau se mettre en route vers leurs objectifs. Il va sans dire que dans leur attitude, il y aura une grosse dépense énergétique de la part de celui qui les écoute, qui les a en conversation. Cela peut également prendre beaucoup de temps. Autrement dit, c'est une conversation qui est énergivore et chronophage. Voilà pour les trois étiquettes en situation avec leur référence énergétique. Le bon, la brute ou le truand représentent des entités qui sont logées au fond de chacun de nos esprits. Quand on est content, on aura plus cette tendance à pencher vers le rôle du bon. Quand on est trop excité, ennuyé ou en colère, on pourra pencher vers la brute. Et puis, quand nos états d'âme frôlent le dégoût ou le désespoir, on a envie d'enfreindre les règles et de pencher vers celui du truand. En réalité, tout est question finalement de situation. Le bon, la brute, le truand ne sont que des outils qui nous permettent d'avoir des interactions positives avec le monde autour de nous. Et suivant les objectifs à atteindre, que ce soit pour obtenir des choses ou alors pour renforcer le lien des relations, nous allons passer par des moments de joie ou alors d'explosion de colère. Parfois, il va falloir découvrir quelque chose d'enfoui, de déprimé. Et tour à tour, ces rôles vont nous permettre de rentrer dans des sphères de la personnalité qui autrement ne nous seraient pas accessibles. Comme je le disais, les situations prévalent plus que tout quand on est à table en romance. C'est peut-être plus indiqué d'être dans un rôle du bon. Quand on est mis en colère au guichet d'une banque, c'est peut-être pas le moment d'être trop à l'écoute et quand on est dans une situation de déprime, ce n'est pas le moment choisi pour aller en écoute des autres. Le bon, la brute et le truand sont donc des outils que nous utilisons suivant les contextes particuliers que nous offre la journée en conversation. Mais sachant aujourd'hui ce que sont ces outils, nous pouvons mieux nous adapter à nos interlocuteurs et savoir shifter entre les rôles pour que les objectifs que nous nous sommes fixés, à la fois transactionnels et relationnels, soient atteints de la façon la plus harmonieuse possible. Cet épisode est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cela vous a plu et que vous n'êtes pas encore abonné, pensez à le faire. Pensez aussi à réécouter donc les niveaux de conversation. Pensez à cette phrase, la signature plexus solaire, si vous ne savez pas ce que ça veut dire. Écoutez l'épisode précédent. Pensez à partager autour de vous parce que cela m'aide à construire plus de contenu et à distribuer plus de valeur. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous souhaite de profiter de ces rôles que vous avez maintenant bien en esprit. À bientôt. Et voilà pour la transition qui est faite. Donc, nous sommes à Place Garibaldi et je me trouve en compagnie de Vito, qui est un ami de longue date, avec qui je suis heureux de partager ce moment de conversation.
Moi également.
Vito, que j'ai connu à La Havane, parce qu'il est musicien exceptionnel. Si vous n'avez pas encore été à La Havane pour écouter Vito, il y a quelque chose qui ne va pas que vous devez réparer.
Et quand on parle de La Havane, on parle de salsa. Et on ne peut pas parler de salsa sans parler de la danse. Nous avons un excellent danseur, professeur de danse
oh là
également.
Là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je vais rougir si ce n'est pas assez. Merci Vito. Donc on se retrouve ici aujourd'hui pour avoir un moment d'échange parce que je connais Vito depuis de longues années maintenant et aujourd'hui nous avons décidé de partager les idées que nous discutons souvent ensemble afin de mûrir notre réflexion et puis bon ben passer un bon moment tous les deux.
Tout à fait.
Et avec vous bien sûr. Donc, aujourd'hui, le sujet qui m'interpelle, c'est celui de la différence. La différence et les jugements. Il y a plusieurs angles pour pouvoir aborder ce sujet. Et moi, je me passionne pour les relations, qu'elles soient proches ou éloignées. Et je trouve que souvent, la communication dans les relations peut être embuée par le manque de compréhension et excès de jugement. Des excès de jugement qui aboutissent à des conflits au détriment de l'harmonie qui règne. Et souvent, ça se passe dans le cercle le plus proche. Donc, ça m'interpelle et je voudrais qu'on en discute, mon cher Vito.
Alors moi, ce que je pense par rapport à la différence, s'il y a des discordes, si on a du mal à se comprendre, parce que comment je peux, en façade, on a l'air, on est tous différents.
Attention au micro, Vito.
Ouais, merci. En apparence, on a l'air tous différents. Mm-hmm. Donc, on a nos bagages, nos croyances, nos conditionnements, nos souffrances et tout.
Mais si en profondeur, je pense, c'est pas je pense, c'est qu'on est tous pareils, on est tous semblables. Donc ce qui fait que je vais avoir une réaction, selon ce que tu vas me dire, je peux avoir une réaction, soit un jugement et tout. Moi, je pense, au jour d'aujourd'hui, c'est en fonction des souffrances, en fait. C'est la souffrance qui fait que tu vas me dire quelque chose, et je vais le prendre pour moi. Ou tu vas me donner ton point de vue. Soit en fonction des souffrances, des blessures que j'ai en moi, je vais le percevoir d'une certaine manière et je vais réagir en fonction. Mais cela ne veut pas dire que... En fait, c'est comme si c'est automatique. Tu vas me dire quelque chose, je vais le prendre pour moi, je vais me sentir blessé ou touché et je vais réagir. Je vais te rendre la monnaie de la pièce. Mais là, encore une fois, ce n'est pas... Comment est-ce que je peux dire ? Moi, je pense profondément que ce n'est pas volontaire. Ce n'est pas volontaire parce que je pense qu'au fond, si on enlève toute la carapace, toutes les blessures, les souffrances, les conditionnements qu'on a, tout au fond, il y a un cœur et je pense que c'est la même chose pour tout le monde. Donc, on ne veut pas du mal. On cherche tous le bonheur, on cherche tous à être bien. Quoi qu'on fasse dans la vie, on cherche à améliorer notre quotidien et tout. Donc, peu importe, même si d'apparence, j'ai l'air fâché contre toi et tout, mais au fond, je ne te veux pas du mal. Je pense que c'est... Comment je peux dire ça? Il y a un travail à faire dans les deux sens. C'est de pouvoir se poser et écouter. Mais tant qu'on a les blessures, on ne peut pas faire ce travail. Parce que c'est les blessures qui vont réagir à notre place. Voilà. Tu vas me dire quelque chose, tu vas me toucher quelque part. Je ne vais pas avoir assez de recul pour ne pas te rendre la monnaie de ta pièce. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, je n'aurai pas assez de recul. Mais c'est un travail, comment dire, de longue haleine, comme on veut dire. Hein. Il faut du temps. Il faut l'observation de soi, s'observer. Et petit à petit, on peut changer ça. On peut apprendre à nous découvrir soi-même. Je vais peut-être un peu trop loin. Je ne sais pas si je t'ai répondu à ta question.
Oui, non, mais c'est,
sinon, ça mérite.
Non, ça mérite d'être développé. Donc, je comprends.
Si tu peux, tu
non,
peux, non, pas tu du peux tout. M'interrompre.
Vas-y, continue. Je t'écoute avec grand intérêt.
Des fois, j'ai tendance à aller trop loin. Et après,
pas du tout. Parce que ça, je pense que le sujet du jugement mérite, quand tu parles de recul, quand tu parles du temps qu'il faut pour l'observation de soi, je pense que c'est tout ça qui mérite de passer, en tout cas, du temps. Et c'est normal que tu développes la réflexion aussi longuement, parce que je pense que ça touche effectivement ce que tu nommes comme ce précieux que nous avons au fond de nous, après avoir enlevé toutes les couches de souffrance, de conditionnement, de cheminement parfois chaotique que nous avons eu. Comme tu le dis si bien, nous avons la volonté à aller vers le bonheur quelque part en nous, qui, même si c'est niché bien au fond. Donc oui, je comprends ce point tout à fait, qui est très très percutant. Tu me fais réfléchir, tu me fais aussi penser à l'idée du jugement par rapport aussi à la connaissance. Parce que c'est ce que tu dis, s'observer soi-même, ça demande d'initier quelque chose, d'avoir envie de connaître autre chose que ce qu'on sait, tu vois, mais par rapport à soi-même. Moi, je pense que ça, c'est un pas qui est assez sensible, qui n'est pas toujours effectué par tout le monde.
C'est un appel qui vient de l'intérieur, en fait.
D'accord.
Donc, si ce n'est pas le moment, c'est pas le moment. Tu peux le percevoir un peu de partout. Mm-hmm. C'est ça qui va nous ralentir par rapport au jugement, le fait de juger une personne. Quand on voit quelqu'un faire quelque chose, on peut juste se calmer, se dire c'est pas le moment pour la personne, mais on va pas juger, on dit ce n'est pas son moment, elle n'est pas prête. Si j'étais à la place de la personne à l'heure actuelle, j'aurais fait exactement avec ses souffrances, son vécu, j'aurais fait exactement la même chose. Donc c'est ça qui nous donne un peu de recul par rapport au jugement. Le fait de ne pas juger, ne pas aller trop, c'est de dire, voilà, si j'étais à la place de la personne, si j'avais les mêmes souffrances, le même vécu, j'aurais fait exactement la même chose. C'est ça qui ça nous donne un peu d'espace et qui fait que même si la personne elle fait une action qui ne nous convient pas, on ne va pas la juger. On peut prendre du recul là-dessus. Et on est bien avec ça. On est bien, ça fait du bien.
Bon, alors, moi, ça m'interpelle parce que finalement, le jugement dont on parle, parce que quand on le mentionne comme on le fait là actuellement, peut-être qu'on ne souligne pas assez le fait que nous ne sommes pas comme par exemple les animaux, le fait que nous disposons de cet esprit et de nos sens, la capacité à aller dans le passé et dans le futur, quelque part nous force au jugement. C'est-à-dire que pour les nécessités de tous les jours, quand on traverse la rue, on regarde pour juger, évaluer la situation. Est-ce qu'il y a un danger ou est-ce qu'il y a une opportunité pour traverser la route ? Quand on veut rentrer dans un magasin, on regarde. Tout ça se fait à vitesse fulgurante. Est-ce que le magasin est ouvert ? Est-ce qu'il est approprié d'y rentrer ou pas y rentrer ? En fait, le jugement est constant dans notre façon de... dans notre navigation du quotidien, on va dire. Maintenant, là où il s'est encore aussi étrange, j'avais vu une expérience de quelqu'un qui montrait un visage d'Obama, président, l'ex-président des États-Unis, qui était complètement retourné à l'envers. Et ce visage était tronqué parce que le sourire avait été manipulé, avait été inversé. Mais quand l'image était à l'envers, on avait l'impression que le visage était normal. D'accord. On jugeait le visage, on disait « Ah oui, mais c'est Obama, c'est normal. » Et dès qu'on la remettait à l'envers, on disait « Oh, c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé ?» Tu vois, c'est pour dire que, avec nos sens, bon gré malgré tout, nous jugeons au mieux de ce qui se passe. Et tant mieux, parce que nous pouvons à chaque fois éviter les choses qui pourraient nous poser des ennuis. On a du discernement. Et en même temps, on est souvent induit en erreur. Tu vois ?
Souvent.
On est souvent induit en erreur. Donc, mais être induit en erreur, c'est inévitable, quelque part. Est-ce que c'est pour autant qu'il faille jeter l'opprobre sur le jugement ? Est-ce que c'est pour ça qu'il faut bannir le jugement ? Je ne sais pas. C'est une question parce que on ne peut pas ne pas juger.
Moi, je dirais pas c'est pas une question de bannir ou pas. C'est pour moi, en tout cas.
Attention le micro.
C'est juste. J'observe, je constate, il y a quelque chose qui se passe. Même si je viens à faire un jugement, mais je reconnais. Mm-hmm. Je reconnais ce que je suis en train de faire, je reconnais ce qui se passe. Après, le but, c'est juste l'idéal, c'est de reconnaître ce qui se passe. Mm-hmm. Par exemple, je te regarde dans la rue, je te dis, oh là là, comment il est habillé, là, 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 là. Ça me convient pas peut-être la manière que tu es habillé, mais toi, tu es content, tu es heureux et tout. Ok, moi, c'est un jugement qui ne me convient pas. Mm-hmm. Mais ça ne regarde que moi.
Après, moi, si j'ai envie d'évoluer là-dedans, je vais reconnaître ce que je suis en train de dire dans ma tête, ce que mon esprit est en train de me faire dire. Voilà. Donc, je suis en train de soit peut-être me moquer de toi ou... Parce que c'est... Mais ce que je suis en train de dire, c'est toujours à partir de ce que je suis, mon conditionnement, mes blessures, c'est tout. Mais qui prouve que c'est vrai, ce que je suis en train de dire? Le jugement, il est... C'est juste un jugement. Donc, je peux parler à quelqu'un d'autre, je dis, ah, regarde Serge, comment il est habillé et tout. La personne va me dire, là, c'est juste un exemple, parce que tu es très beau là, je trouve. Hein. Regarde comment tu es beau costumé. Ah, bah, et l'autre personne, elle va me dire, ah non, mais c'est super, j'aime bien et tout. Donc, c'est juste une question de, comment dire, c'est propre à soi. Donc, c'est mon opinion et ça ne regarde que moi. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore là-dessus? Je ne sais plus, je sais même pas quoi dire. C'est tellement, en fait, il y a tellement à dire et d'un autre côté, en fait, c'est tellement peu, c'est tellement simple. Franchement, je ne sais pas ce que je peux rajouter. Si tu veux que je rajoute autre chose, je peux.
Alors, mais... moi, par exemple, bon, le jugement, je l'ai expérimenté. Expérimenté de plusieurs façons. Aujourd'hui, je m'y intéresse sur le plan relationnel, mais par exemple, comme tu évoquais le costume et tout ça, ou l'habit qui peut, par exemple, faire l'objet d'un jugement négatif. Négatif ou positif. Moi, j'ai expérimenté depuis tout petit le jugement sur la nature, parce que le fait que je sois différent des autres... Le jugement a été constant, c'est-à-dire que, et gratuit, sur un aspect que je ne pouvais pas changer et que je ne pouvais pas expliquer. Enfin, petit, je ne savais pas trop l'expliquer. Et le jugement était parfois assez fort, puissant et constant. Encore aujourd'hui, moi, je sais que quand je passe dans la rue, j'interpelle, on me juge. Parfois on se moque, parfois on toise, parfois on est émerveillé.
Ça,
parfois...
Voilà, ça peut être un avantage, un atout.
Ça peut être un atout, ça peut être aussi un mot. Ça n'a pas toujours, je n'ai pas toujours interprété comme ça.
Tout à fait.
Ah non, ça a été un cheminement qui m'a permis de, d'aller jusque là. Oups, là, ça grésille.
Un petit peu. Hein.
Ah, voilà. C'est un cheminement personnel qui m'a permis d'aller faire la part des choses et d'aller rejoindre un peu ce que tu dis, ce que le jugement est quelque chose d'interne et qui est forcément le résultat de nos conditionnements, notre éducation, notre façon de percevoir le monde, que l'on projette au dehors à un moment donné. Souvent d'ailleurs, ce jugement, il n'est pas statique. Il peut être d'un tel point aujourd'hui et puis d'être d'un autre point le lendemain, tu vois.
Exactement.
Donc, mais il a fallu du temps pour que je l'intègre. Encore aujourd'hui, c'est souvent assez vif, des fois, la réaction des gens. Mais je suis beaucoup plus calme avec ça. Surtout, par rapport à ce que l'on dit tout à l'heure, c'est impossible de ne pas juger. Il y a une expérience qui a été faite qui disait, par exemple, dans le subconscient, nous jugeons, nous traitons plus de 40 000 milliards d'informations à la seconde. Imagine, par exemple, que tu vas dans la rue. Normalement, tout est jugé en temps réel. La moindre personne qui serait peut-être même à 50 mètres dans une foule, mais qui n'aurait pas de tête, tu la percevrais tout de suite. Et tu dirais, il y a un problème. Tu vois, parce que
très vite,
le cerveau te demande d'être à l'abri de ce qui pourrait te menacer. Donc, le jugement, c'est impossible de faire autrement. Mais comme tu dis si bien, on peut juger, mais après on peut dépasser. On peut prendre, on peut juger une situation, une personne, un objet, et après passer au-delà. Ça, par contre.
Déjà reconnaître ce que nous sommes en train de faire, voilà, je suis en train de... Déjà d'arriver à ce stade-là, c'est déjà pas mal, tu vois. Quand tu fais une critique sur une personne, peu importe, un jugement,
que tu t'observes, tu observes ce que tu es en train de faire, c'est déjà pas mal. Déjà, tu commences, il y a un travail, le travail commence à partir de là. Et après, à partir de là, tu peux juste, tu peux continuer ce processus, voilà, par rapport au jugement. Voilà, même si tu viens faire un jugement, mais reconnais-le, accepte-le que là, j'ai fait un jugement, voilà. Pas besoin de pardonner ou quoi que ce soit parce que tu n'as rien fait de mal, mais c'est d'observer ce que tu fais, comment tu fonctionnes, et c'est à partir de là, après le changement, il va se faire petit à petit. Et ce qui fait que après, tu n'as pas besoin, tu acceptes les gens comme ils sont. Tu vois quelque chose, tu n'as pas besoin de faire de commentaires. T'as pas besoin, tu observes, tu constates, ok, moi c'est là. La personne, elle est là. Moi, je travaille sur ça depuis un bon moment. Et franchement, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que tu peux observer ce qui se passe. La personne, elle est telle qu'elle est. Si c'était le sens inverse, tu serais à sa place. Eh ben, tu aurais fait les mêmes bêtises. Eh ben, si c'est des conneries, hein, des bêtises et tout, ça serait la même chose. Donc, ça n'a rien de jugé. J'arrive à le faire et je suis content. Je dis pas que je suis, mais je travaille dessus. Je travaille, ça fait quelques années que je travaille dessus et j'y arrive, je vois le progrès. Donc ça ne sert à rien de juger. Et même si je viens juger, c'est humain des fois, enfin humain, je ne sais pas si c'est humain ou pas, c'est des habitudes au fait. Je fais un jugement, après je le corrige à l'intérieur. Voilà, Après, tout à l'heure, tu me parlais par rapport à nos différences, de la manière que tu le percevais. J'ai oublié le micro, et pourtant, j'ai l'habitude du micro, mais c'est bizarre. Mais est-ce que ça a été une souffrance pour toi?
Ah oui, ou... Au début, oui. Au début, en tant que jeune enfant, en Afrique, au Cameroun, où j'ai vécu d'abord avec mon frère et mon père, parce que mes parents se sont séparés très tôt, il n'y avait pas de raison autre que juste parce que j'étais différent, albinos, et ça suscitait parfois des grands cris envers moi. Donc parfois je me cachais, j'angoissais à l'idée de passer juste à un endroit parce que je savais ce qui m'attendait. Ah, oui. Ce genre de choses. Ah, non seulement c'était assez choquant, assez violent, mais en plus je n'avais pas d'endroit de décompensation, c'est-à-dire je ne pouvais pas aller en parler à quelqu'un, je n'avais même pas ce réflexe, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en fait. Ouais. J'ai donc développé des stratégies de camouflage pour me cacher, etc., pour régler ça à ma façon. Et ça a été longtemps comme ça, tu vois.
Ça devait être pénible, non, pour toi?
Ah oui, c'était... Je pense que je l'oblitérais, je faisais comme si ça n'existait pas. Ça me rattrapait seulement sur l'instant. À chaque fois que je devais. Mais je savais, j'avais repéré, je savais, je serrais les dents, je disais tiens, je vais passer à travers. C'était comme une fatalité. Je me disais que ça ne pouvait pas être autrement, ça devait se passer comme ça. Je n'en voulais pas aux gens en plus. Je n'en voulais pas. Je disais qu'ils le faisaient parce que c'était comme si c'était de leur rôle de le faire et que à moi de le subir. Tu vois? Ah, okay. Je ne cherchais pas plus à comprendre que ça. Donc ça m'a poursuivi longtemps. Donc je pense que ça a eu un impact profond sur mon estime personnelle, ma confiance en moi, etc. À l'école, c'était pas simple. Ah ouais. C'est dans mon coin en fait que j'ai dû réexaminer. Je dis mais c'est quoi le problème en fait? Comment je peux faire pour résoudre ça? Il n'y a pas de poids à vendre, de poids à changer, etc. Après, en découvrant les arts, tout ça, je me suis la musique, la musique, ça me permet de penser à autre chose, le sport, ça me permet de penser à autre chose. Et,
ouais,
et comme ça, en fait. Et puis, en rencontrant aussi des gens qui m'aiment pour qui je suis, qui avec des amitiés, des choses comme ça, ça me permet de penser à autre chose. Ça m'a permis de penser à autre chose et d'éviter ce genre d'endroit pendant un moment, jusqu'à ce que je trouve les vraies solutions en moi pour pouvoir tromper avec. Mais ce n'est jamais vraiment terminé. Franchement, c'est jamais vraiment, vraiment terminé. Parce qu'à chaque fois, je suis exposé à des situations spéciales qui me demandent quelque chose. C'est ça, je me souviens, il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être il y a 11 mois ou je sais pas, un an à peu près, je suis rentré dans un tram. Il y avait plein d'enfants. Plein d'enfants qui sortent des sorties scolaires, etc. Et tout d'un coup, ils sont tous commencé à crier « Ah, regardez le monsieur !»
Ouais.
Je veux dire, on a beau être prêt, on a beau être mature, tout ça, descend dans son centre de gravité, on regarde. Ah oui, parce que c'est toujours assez spécial, tu vois. Et ce qui me sauve, c'est d'être bien aujourd'hui avec moi, parce qu'avant, ce n'était pas le cas. J'ai eu des problèmes de poids, etc. Aujourd'hui, je me sens bien avec moi. C'est surtout ça qui compte, se sentir bien avec soi, parce que quand on y regarde bien, on a tous des points différents. Là, pour moi, c'est apparent, mais pour beaucoup, ça peut être psychologique, etc. Tout le monde a toujours quelque chose à souligner de soi. Et puis, tu vois, donc aujourd'hui, c'est moins aigu, mais ça n'a pas disparu, tu vois.
Ouais, c'est toujours d'actualité.
Ah, c'est toujours d'actualité, c'est normal. Je pense que ça, c'est quelque chose, ça va être de moins en moins avec le temps, toujours, la maîtrise, la maturité, le recul, tout ça. Mais comme chacun de nous, je crois que l'estime de soi ou la confiance n'est jamais réellement complètement totale, parce que les situations viennent toujours nous révéler quelque chose d'un peu spécial, de nouveau, tu vois. Et à partir du moment où ça ne pose plus un problème majeur dans mon fonctionnement au quotidien, je pense que c'est ce qui compte. C'est ce qui compte. À partir du moment où je peux, tu vois, me mettre à l'écran, ne pas avoir peur de me mettre à l'écran, d'être jugé, à partir du moment où je peux aller et venir, ouais, exprimer ce que je suis, c'est ce qui compte, tu vois. Mais il a fallu du temps. Il a fallu du temps, encore, je t'ai dit, c'est pas toujours.
Et, par exemple, parce que j'essaye d'un peu d'imaginer un peu ce que tu peux ressentir. Par exemple, quand les gens qui perçoivent ça comme une différence flagrante et tout, tu leur dirais quoi?
S'ils me posaient une question?
Non. Qu'est-ce que toi, tu penses par rapport à ces gens-là qui te jugent par rapport à cette différence?
Oh là là, ça c'est... ça c'est une question... Ah oui, très spécial. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Comme je te le disais, oh là là, il y a un grésillement. Comme je te le disais, déjà, on ne peut pas s'empêcher de juger, comme je te disais, parce que cérébralement, nous fonctionnons comme ça. Et puis, suivant le niveau de chacun et les connaissances de chacun, les expressions vont être différentes. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'albinisme, quelqu'un qui n'a jamais vu quelqu'un de différent, va tout de suite, suivant son éducation et suivant aussi son caractère, va soit être émerveillé, soit être horrifié, soit se moquer, soit, tu vois, tout est spécial. Donc, je comprends ces personnes qui jugent. Pour celles qui se moquent, hélas, on ne peut pas empêcher, tu vois. On peut juste leur souhaiter de faire un peu mieux que ça et d'aller chercher autre chose, à comprendre, mais on ne peut pas les empêcher. Pour celles qui sont perplexes et se demandent qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est comme ça, il suffit un peu de s'informer, de connaître. Et pour celles qui sont émerveillées, ma foi, c'est bien, c'est la diversité humaine.
Il y a pour tout le monde.
Tu vois, il y a
pour tout le monde.
Donc, mais personnellement, je ne suis pas embêté à partir du moment, parce que c'est vrai que parfois ça devient presque une agression physique. J'ai souvent eu ça. J'ai souvent eu des personnes qui disent « Oh là, toi là-bas, pourquoi tu es comme ça ?» et qui viennent m'agresser. Ça, c'est différent.
Parce que... ouais, c'est la peur, en fait. Ils ont peur. Ils ont peur de cette différence parce qu'ils ne connaissent pas.
Oui, on peut... tout peut être... ça peut être aussi un acte gratuit. Un acte... On ne sait pas. Il y a des motifs, c'est vrai, de toutes sortes qui peuvent expliquer ça. Mais toujours est-il qu'à partir du moment où moi, je me sens menacé, tout ça, je prends une distance, je regarde et tout ça, je contrôle. Parce que ça devient différent. Quand les agressions restent verbales, qu'il y a une attitude un peu hostile et tout ça, bon, pas de problème. Mais dès qu'elles reviennent dans un champ physique, etc., j'essaie de trouver le moyen de garder la distance, tu vois. Mais à part ça, pour le reste gérable, contrôlable. Et puis avec l'expérience maintenant, j'ai tellement vu ça que...
Bah, tu te...
je suis un peu...
Tu t'adaptes à cette...
Pas complètement, comme je te dis, il y a toujours... Parce que les situations sont parfois spectaculaires, mais c'est quand même mieux qu'avant. Ouais. Tu vois. Et puis aujourd'hui, ce travail me permet de mieux voir les points qui clochent chez les autres par rapport à leur estime, leur confiance, parce que c'est beaucoup plus subtil parfois plus abstrait, c'est psychologique, alors que moi, ça se voit, tu vois. Donc le travail est beaucoup plus dense, intense, donc je comprends, je peux aller beaucoup plus en sympathie, en empathie, en synchronie avec ceux qui ont d'autres challenges internes et les accompagner mieux à résoudre ça du fait de cette expérience, tu vois.
Ouais, il y a un truc que ça me gêne un peu quand on dit qu'on est par rapport à la différence, parce que c'est vrai que d'apparence on est tous différents, mais au fond on est semblable, on n'est pas si différent que ça.
Mais oui, mais Vito,
c'est...
Le point est que Vito, on vit de fond et de forme. On ne vit pas que de fond.
Justement.
On vit, comme tu dis, de ce fond de similitude, on est semblable, mais on vit aussi de forme. C'est-à-dire que dans le quotidien, tu vois des femmes, des hommes, des enfants, des personnes âgées, des moins âgées. Tout ça, c'est un flot qui stimule ton champ de perception. Et quand tu vois un enfant, c'est un enfant. Il est peut-être comme toi, mais il est différent d'aspect. C'est-à-dire que tu ne vas pas te comporter envers lui du fait qu'il soit enfant comme tu te comporterais avec moi, par exemple. Même dans ton abord de la conversation avec lui, il y a quelque chose qui va se former dans ton esprit pour pouvoir
l'aborder. Tout à fait, l'aborder. Tu t'adaptes.
Exactement.
Tu t'adaptes.
Mais ça... C'est parce qu'il y a un aspect, parce qu'il y a une forme.
Ça, je suis d'accord, mais en fait, c'est par rapport à la différence, à la peur qu'on a de la différence. Par exemple, j'aime pas trop dire le mot racisme ou quoi que ce soit, parce que moi, je pense que deux personnes. Peu importe la couleur de peau, peu importe tout ça, on met deux personnes. D'apparence, elles ont l'air différentes. Mais si on... Parce que moi, j'essaie d'aller un peu au-delà de l'apparence. Hein. Donc on met deux personnes là qui, physiquement, ont l'air complètement différentes. Mais qu'est-ce qui fait que ces deux personnes soient là, à cet instant, qu'elles soient là en vie? On a besoin de quoi? D'un cœur qui bat, on a besoin de l'air pour respirer. Et si on regarde les besoins qu'une personne a pour être là, en vie, les besoins que nous avons pour survivre, si on prend ces besoins, c'est exactement les mêmes choses pour tout le monde. Donc, pourquoi, par exemple, si ton cœur il arrête de battre, ben ça, tu respires plus, c'est fini. Et ça peut être n'importe qui. C'est exactement la même chose. Donc, pourquoi on s'attarde sur l'apparence? C'est comme si on change de vêtements. Voilà, tu as ce costume. Donc, si tu changes de costume, est-ce que tu deviens quelqu'un d'autre? Non. Si moi, je change de vêtements, la couleur de peau, c'est pareil. L'apparence physique, c'est exactement la même chose. C'est comme un habit qu'on porte, mais que le fond, c'est la même chose pour tout le monde. Exactement tout le monde. Moi, sur mon album, il y a une chanson que je parle de nos différences à l'époque.
Ah oui, l'album de Vito.
Parce que ça, c'est un truc, ça fait plus de 10 ans. Mais c'est quelque chose qui m'a toujours touché. Parce que
c'est atemporel, ton album.
Ça m'a toujours touché parce que je vois qu'on s'attarde. On attache beaucoup d'importance à la différence, à l'aspect, l'apparence physique, quoi. Mais ce n'est que mon point de vue. Hein. Donc, si on va un petit peu en dessous de cette apparence, on voit qu'on est exactement pareil, tous pareils. Moi, voilà, c'est ce que je voulais dire par rapport à nos différences. Est-ce qu'on pense que c'est quelque chose, telle personne, non, il est différent ou elle est différente. Non. Enfin, je préfère arrêter de parler de là.
En tout cas, on voit que c'est un sujet aussi qui te touche particulièrement. Est-ce que toi,
ça me touche, ouais.
Est-ce que tu l'as vécu d'une certaine façon, quelque part?
Non, on le vit d'une manière ou d'une autre, on le vit constamment. Donc, mais je pense que... je dirais, ce que j'inviterais, ce serait de regarder un petit peu plus loin que la tenue, l'habit. Et que de réfléchir un tout petit peu, ne serait-ce qu'un instant, hein, de se poser et se dire, voilà, on enlève l'apparence physique à l'intérieur. Voilà, c'est qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qu'on a en commun? C'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas différent, qu'on est semblable. À part, on est différent, ouais, comme ça. C'est pour voir, comme ça je peux te reconnaître, parce que sinon on serait tous pareils, tu vois. Ça c'est pour... Je trouve même pas le mot que je voulais dire exactement. Mais à l'intérieur, on est exactement pareil.
Je vois ce que je veux dire. Non mais... C'est vrai que c'est quelque chose de manifeste. On est pareil, comme tu dis, on a le cœur qui fonctionne d'une certaine façon. On a l'air qui nous pourvoit cet oxygène. Donc, c'est la même chose que ce soit en Chine, au Japon, en Argentine, en Afrique ou en Australie. C'est tout le monde qui est logé à la même enseigne. C'est-à-dire que ça me rappelle un discours que je tenais pour la mucoviscidose il y a longtemps déjà. Plus de 3 minutes sans air, à moins d'être un apnéiste entraîné, et même pour lui ce serait quoi, 8 minutes maximum. Le record, je ne sais pas à combien il est, peut-être à 10 minutes, je ne sais pas.
Mais bon, il ne tiendra pas longtemps.
Il ne tiendra pas 20 minutes. Donc, et c'est le cas pour nous tous. Donc, sur ce plan, je suis d'accord complètement avec ce que tu dis. C'est vrai que moi, j'ai appris aussi à m'accoutumer de cette histoire d'apparence, parce que je suis comme je suis de visu. On me voit comme ça. Ça fait partie, c'est une partie du puzzle de mon identité, quelque part. une identité qui est fluctuante, mais ça fait partie, c'est-à-dire que me référence, on m'appelle, tiens, J.S., Serge, Sergio, c'est lui.
Tout à fait.
Par le physique qui est manifesté là.
Ça permet d'identifier.
Exactement.
Voilà, bien sûr.
Donc, comme tu dis si bien, ça n'est pas tout d'une personne. Il y a ce qu'il y a à l'intérieur et en général, c'est ce qui est à l'intérieur. C'est avec ce qui est à l'intérieur qu'on arrive à construire des choses et à avoir une expérience, un chemin qui est très, très harmonieux, très favorable. Donc, il y a le langage, il y a les échanges d'expériences, il y a le partage des valeurs, etc., qui permettent de construire les amitiés, qui permettent de développer des cheminements communs. Mais ça, ça se passe au-delà, effectivement, du physique. Je suis tout à fait d'accord. Mais le jugement, là, on l'a abordé sur un plan très visible. Mais il se passe aussi, par exemple, dans un cas, dans un champ plus abstrait, par exemple, les valeurs. Dans un couple, c'est une mise en commun de valeurs. Dans une amitié, c'est une mise en commun de valeurs. Dans un partenariat entreprise ou dans un partage de hobby, c'est tout d'un coup une mise en commun de valeurs. Ça n'est pas peut-être quelque chose qu'on fait officiellement. Bon, sauf s'il y a un contrat, mais en tout cas, ça l'est. À partir du moment où on décide de façon explicite ou tacite de partager un chemin envers un objectif, peut-être clair ou pas clair, on met en commun des valeurs. Parfois de façon, comme je dis, inconsciente. Et c'est là que je voudrais attirer ton attention, en te posant la question, qu'en est-il du jugement quand il se manifeste là? C'est-à-dire que tout d'un coup, tu te retrouves avec un ami, tu dis, écoute, moi, je pensais que quand je te disais de réaliser telle opération, comme tu es mon ami, tu le ferais instantanément. Mais non, tu as attendu 3 mois avant de te manifester. Est-ce que c'est ça un ami? Tu vois? Ce genre de choses qui ne sont pas, comme je disais, apparentes comme le physique, où le jugement est beaucoup plus abrupt, font aussi.
C'est la dispute, le conflit est ouvert. Aïe, 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 aïe. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Vous pouvez également liker, commenter et partager le contenu autour de vous, car cela m'aide à réaliser encore plus de valeur pour vous semaine après semaine. Cette semaine, le sujet est épineux parce que la dispute, c'est pas quelque chose d'assez commode, c'est plutôt délicat. Oui, tu veux toujours avoir raison, à chaque fois que je dis quelque chose, ce n'est jamais vrai. Oui, si tu voulais épouser ta mère, tu n'avais qu'à l'épouser, elle est toujours meilleure que moi en tout. Oui, c'est quoi cet ami qui n'est jamais là, qui veut toujours me reprocher les choses et qui ne fait jamais rien? Ah là là, mais j'en ai marre, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Bref, ce sont des situations auxquels nous avons été confrontés, ma foi, au moins une fois. Et nous connaissons tous, vous également, quelqu'un qui dans l'entourage se plaît à démarrer souvent des situations conflictuelles, des disputes ouvertes. Parfois, ce sont des personnes plus que proches. Et ça n'est pas toujours évident. Alors, quels sont ces trois pièges coriaces que nous présentent les situations de dispute? Eh bien, déjà, ce qui se passe lorsque nous entrons dans cette situation, vous l'aurez remarqué, les émotions sont à vif. Il y a la frustration, il y a la colère, il y a la violence, et tout ça est aussi un terreau de la peur. Nous sommes physiquement à cran, chargés d'adrénaline, et parfois ce qui sort comme propos n'est pas toujours adapté à la situation. Il y a une violence qui peut être verbale, qui peut être psychologique, et même, hélas, aussi physique. La programmation neurolinguistique nous enseigne que dans une situation de dispute, les émotions débordent. Et c'est en cela que nous sommes faillibles pour le premier piège, c'est-à-dire laisser les émotions déborder et tenter coûte que coûte de raisonner dans une situation où les émotions ont pris le dessus. Quand les émotions débordent, voilà ce que le cerveau fait. Il a tendance à généraliser. C'est toujours comme ça, tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours que je fasse la même chose. Ce n'est pas possible, ça ne peut plus continuer. Il déforme la réalité parce que les émotions étant à vif, nous ne sommes plus à mesure d'être proprement objectif, et enfin, il crée des omissions. On oublie certains faits qui peuvent eux aussi amener de la précision à la situation. C'est donc ces trois phénomènes qui occurrent en même temps et qui nous empêchent de mieux appréhender la situation. Que faut-il faire? Eh bien, deux choses. Quand vous êtes confronté, ce n'est pas toujours évident, mais quand vous êtes confronté à cette situation de dispute, soit vous prenez du champ, vous essayez de remettre la discussion à plus tard si c'est possible, soit vous vous détournez physiquement de ce qui se passe en prenant les permissions nécessaires. Excuse-moi, mais là je ne suis pas en mesure de parler. Je vais faire un tour, excuse-moi, je vais m'allonger parce que j'ai mal à la tête, je pourrais reprendre la discussion plus tard, excuse-moi, mais là, ça n'est pas possible de continuer, je ne trouve pas mes mots, je n'arrive pas à te dire les choses clairement, donc je vais m'arrêter là, on reprendra plus tard. Donc, toutes sortes de sorties physiques qui permettent de diminuer un peu l'intensité émotionnelle. Le deuxième piège, quel est-il? Imaginons deux garçons, A et B. Ils ont pour habitude, tous les deux, trois jours, d'avoir un thème de petit déjeuner. Ce sont des frères. Ils ont le petit déjeuner qui est sous le thème de l'orange. Donc, tous les deux, trois jours, chacun a son orange pour le petit déjeuner. Voilà qu'il se lève ce jour-là et il n'y a qu'une seule orange dans le panier. Non, ce sera à moi parce que c'est moi qui l'ai vu le premier. Non, tu ne peux pas le prendre parce qu'il n'y en a qu'une et moi aussi je la veux, l'orange. Et voilà que la dispute éclate. La maman accourt, entendant tous ces cris, et demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état ?» Non, mais maman, il n'y a qu'une orange, donc c'est moi qui vais la prendre. Non, c'est pas toi, c'est moi. La maman désemparée découvre donc effectivement son mari et elle n'ont pas pensé à remplir le panier, donc il n'y a qu'une orange. Excusez-moi les enfants, nous avons oublié d'acheter les oranges, donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez couper l'orange en deux et comme ça, il n'y aura pas d'histoire.
Non, maman, c'est pas possible. Moi, il me faut une orange entière. Ah oui, mais moi aussi, il me faut mon orange entière. Je peux pas, c'est pas possible. J'en veux pas. Il me faut l'orange. La maman désemparée, mais qu'est-ce qui leur arrive pour une orange? Écoutez les garçons, mais je vais quand même pas vous fabriquer une orange. Je suis pas une poule à orange ou un arbre fruitier, moi. Vous pouvez attendre. Aujourd'hui, on va refaire le plein d'oranges. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez diviser l'orange en deux. Non, maman, on ne veut pas, c'est pas bon, non, non. Et la maman prend du recul, dit, mince alors, mais c'est pas possible, c'est une orange. Alors, elle prend la décision de traiter le problème différemment. Pour les besoins de l'histoire, appelons le garçon Sylvain A et le garçon B, Gérard. La maman, voyant que ça prend des tournures exceptionnelles, décide de traiter la situation de façon différente. Elle pose la question à Gérard, le garçon A, on va l'appeler Gérard. Mais Gérard, comment est-ce que tu veux manger ton orange? Ben, moi je veux d'abord faire un petit gâteau avec le zeste de tout l'orange et après je vais boire le jus éventuellement. D'accord. Puis, elle pose la question au garçon B, que l'on va appeler Sylvain. Sylvain, comment est-ce que toi, tu veux manger ton orange? Ben, moi, d'abord, je fais mon smoothie, ensuite, éventuellement, je fais mon gâteau avec tous les zestes de l'orange. Ah! Tout de suite, le déclic se fait. Elle constate qu'avec une seule orange, elle peut donner le zeste entier à Gérard et donner le jus entier à Sylvain, parce que les opérations deuxième de Sylvain et de Gérard ne sont pas des priorités. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séparé les postures que sont avoir une orange absolument pour réaliser ce petit déjeuner, des intérêts qui sont regardés aux priorités. Et avec ça, elle a réussi avec une seule orange à les mettre tout à fait d'accord. Donc, quand tout d'un coup la dispute éclate parce que la vaisselle n'est pas faite, parce que les courses n'ont pas été rangées, parce que les garçons n'ont pas été accompagnés dans leurs devoirs, parce que le collaborateur qui devait apparaître à la réunion, à la télé-réunion, n'est pas apparu, parce que le chèque qui devait être encaissé à un moment clé n'a pas été encaissé, parce que, eh bien, à chaque fois, il s'agit de discerner entre la posture et les intérêts. Donc, souvenez-vous des derniers désaccords que vous avez vus, même s'ils ne sont pas allés au niveau de la dispute. Examinez-les à nouveau et vous verrez, il y a un aspect postural qui est lié à nos croyances profondes, qui est couplé à un aspect intéressé, plus objectif. Faites le tri pour pouvoir créer de l'avancement par rapport à cette situation. Le troisième piège est celui que l'on fait pas toujours de façon automatique, que j'appelle la réparation. Ces disputes, ces moments de conflit très ouverts créent des petites brèches à la fois intellectuelles, émotionnelles et physiques. Donc, en prendre soin d'une certaine façon, en venant réparer intellectuellement, reconnaissant que ce qui s'est passé n'a pas été la meilleure façon de traiter la situation, émotionnellement, en venant poser l'acte du pardon ou des excuses pour pouvoir soulager la situation et exprimer son propre ressenti, et ensuite physiquement recréer à nouveau de la proximité sans qu'il n'y ait cette sensation d'hostilité. Ces trois angles sont aussi quelque chose de très important qui permettent de dissoudre les accumulations d'aigreur qui peuvent
s'occasionner quand les disputes se répètent et ne sont pas réparées. Vous aurez donc compris, 1, il faut sortir de la zone émotionnelle trop forte, 2, faire le tri entre la posture et les intérêts, 3, pouvoir entrer en zone de réparation pour mieux cerner la dispute. Et je pense que dans ce moment de confinement où les rapprochements sont là, nous savons que c'est toujours délicat d'être proche, car cette zone permet aussi bien des échanges hostiles que des échanges fertiles. Donc, faites bien le ménage, soyez conscient de ce qui se passe et utilisez ces 3 outils pour pouvoir désactiver ces moments de dispute. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Je vous suggère de liker, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. C'est la dispute, le conflit est ouvert. Aïe, 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 aïe. Pourquoi est-ce que nous en sommes arrivés là? Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, votre hôte de ce podcast dédié à vos relations plus épanouies. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, tâchez de le faire dès à présent. Vous pouvez également liker, commenter et partager le contenu autour de vous, car cela m'aide à réaliser encore plus de valeur pour vous semaine après semaine. Cette semaine, le sujet est épineux parce que la dispute, c'est pas quelque chose d'assez commode, c'est plutôt délicat. Oui, tu veux toujours avoir raison, à chaque fois que je dis quelque chose, ce n'est jamais vrai. Oui, si tu voulais épouser ta mère, tu n'avais qu'à l'épouser, elle est toujours meilleure que moi en tout. Oui, c'est quoi cet ami qui n'est jamais là, qui veut toujours me reprocher les choses et qui ne fait jamais rien. Ah là là, mais j'en ai marre, c'est pas possible, je ne peux pas continuer. Bref, ce sont des situations auxquels nous avons été confrontés, ma foi, au moins une fois. Et nous connaissons tous, vous également, quelqu'un qui dans l'entourage se plaît à démarrer souvent des situations conflictuelles, des disputes ouvertes. Parfois, ce sont des personnes plus que proches. Et ça n'est pas toujours évident. Alors, quels sont ces 3 pièges coriaces que nous présentent les situations de dispute? Eh bien, déjà, ce qui se passe lorsque nous entrons dans cette situation, vous l'aurez remarqué, les émotions sont à vif. Il y a la frustration, il y a la colère, il y a la violence et tout ça est aussi un terreau de la peur. Nous sommes physiquement à cran, chargés d'adrénaline, et parfois ce qui sort comme propos n'est pas toujours adapté à la situation. Il y a une violence qui peut être verbale, qui peut être psychologique, et même, hélas, aussi physique. La programmation neurolinguistique nous enseigne que dans une situation de dispute, les émotions débordent. Et c'est en cela que nous sommes faillibles pour le premier piège, c'est-à-dire laisser les émotions déborder et tenter, coûte que coûte, de raisonner dans une situation où les émotions ont pris le dessus. Quand les émotions débordent, voilà ce que le cerveau fait. Il a tendance à généraliser.
C'est toujours comme ça, tu veux toujours avoir raison, tu veux toujours que je fasse la même chose. Ce n'est pas possible, ça ne peut plus continuer.
Il déforme la réalité parce que les émotions étant à vif, nous ne sommes plus à mesure d'être proprement objectifs. Et enfin, il crée des omissions. On oublie certains faits qui peuvent eux aussi amener de la précision à la situation. C'est donc ces trois phénomènes qui occurrent en même temps et qui nous empêchent de mieux appréhender la situation. Que faut-il faire? Eh bien, deux choses. Quand vous êtes confronté, ce n'est pas toujours évident, mais quand vous êtes confronté à cette situation de dispute, soit vous prenez du champ, vous essayez de remettre la discussion à plus tard si c'est possible, soit vous vous détournez physiquement de ce qui se passe en prenant les permissions nécessaires. Excuse-moi, mais là je ne suis pas en mesure de parler, je vais faire un tour, excuse-moi, je vais m'allonger parce que j'ai mal à la tête, je pourrais reprendre la discussion plus tard, excuse-moi, mais là ça n'est pas possible de continuer, je ne trouve pas mes mots, je n'arrive pas à te dire les choses clairement, donc je vais m'arrêter là, on reprendra plus tard. Donc toutes sortes de sorties physiques qui permettent de diminuer un peu l'intensité émotionnelle. Le deuxième piège, quel est-il? Imaginons deux garçons, A et B. Ils ont pour habitude, tous les 2-3 jours, d'avoir un thème de petit déjeuner. Ils sont des frères. Ils ont le petit déjeuner qui est sous le thème de l'orange. Donc, tous les 2-3 jours, chacun a son orange pour le petit déjeuner. Voilà qu'ils se lèvent ce jour-là et il n'y a qu'une seule orange dans le panier. Non, ce sera à moi parce que c'est moi qui l'ai vu le premier. Non, tu peux pas le prendre parce qu'il n'y en a qu'une et moi aussi je la veux, l'orange. Et voilà que la dispute éclate. La maman accourt, entendant tous ces cris, et demande « Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous mettez dans cet état ?»« Non, mais maman, il n'y a qu'une orange, donc c'est moi qui vais la prendre. » »« Non, c'est pas toi, c'est moi. » La maman désemparée découvre donc effectivement son mari et elle n'ont pas pensé à remplir le panier, donc il n'y a qu'une orange. « Excusez-moi les enfants, nous avons oublié d'acheter les oranges, donc aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez couper l'orange en deux et comme ça, il n'y aura pas d'histoire. »«
Non maman, c'est pas possible, moi il me faut une orange entière. Ah oui, mais moi aussi, il me faut mon orange entière, je peux pas, c'est pas possible, j'en veux pas, il me faut l'orange. »
La maman désemparée, mais qu'est-ce qui leur arrive pour une orange? Écoutez les garçons, mais je vais quand même pas vous fabriquer une orange. Je suis pas une poule à orange ou un arbre fruitier, moi. Vous pouvez attendre. Aujourd'hui, on va refaire le plein d'oranges. Pour aujourd'hui, exceptionnellement, vous allez diviser l'orange en deux.
Non, maman, on ne veut pas. C'est pas bon, non, non.
Et la maman prend du recul, dit « Mince alors, mais c'est pas possible, c'est une orange. » Alors elle prend la décision de traiter le problème différemment. Pour les besoins de l'histoire, appelons le garçon Sylvain A et le garçon B, Gérard. La maman, voyant que ça prend des tournures exceptionnelles, décide de traiter la situation de façon différente. Elle pose la question à Gérard, le garçon A. On va l'appeler Gérard. Mais Gérard, comment est-ce que tu veux manger ton orange?
Ben, moi, je veux d'abord faire un petit gâteau avec le zeste de tout l'orange et après, je vais boire le jus éventuellement.
D'accord. Puis, elle pose la question au garçon B que l'on va appeler Sylvain. Sylvain,
comment est-ce que toi tu veux manger ton orange? Ben moi, d'abord je fais mon smoothie, ensuite éventuellement je fais mon gâteau avec tous les zestes de l'orange. Ah, tout de suite le déclic se fait, elle constate qu'avec une seule orange, elle peut donner le zeste entier à Gérard et donner le jus entier à Sylvain, parce que les opérations deuxième de Sylvain et de Gérard ne sont pas des priorités. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a séparé les postures que sont avoir une orange absolument pour réaliser ce petit déjeuner, des intérêts qui sont regardés aux priorités. Et avec ça, elle a réussi avec une seule orange à les mettre tout à fait d'accord. Donc, quand tout d'un coup la dispute éclate parce que la vaisselle n'est pas faite, parce que les courses n'ont pas été rangées, parce que les garçons n'ont pas été accompagnés dans leurs devoirs, parce que le collaborateur qui devait apparaître à la réunion, à la télé-réunion, n'est pas apparu, parce que le chèque qui devait être encaissé à un moment clé n'a pas été encaissé, parce que, eh bien, à chaque fois, il s'agit de discerner entre la posture et les intérêts. Donc, souvenez-vous des derniers désaccords que vous avez vus, même s'ils ne sont pas allés au niveau de la dispute. Examinez-les à nouveau et vous verrez, il y a un aspect postural qui est lié à nos croyances profondes, qui est couplé à un aspect intéressé, plus objectif. Faites le tri pour pouvoir créer de l'avancement par rapport à cette situation. Le troisième piège est celui que l'on fait pas toujours de façon automatique, que j'appelle la réparation. Ces disputes, ces moments de conflit très ouverts créent des petites brèches à la fois intellectuelles, émotionnelles et physiques. Donc, en prendre soin d'une certaine façon en venant réparer intellectuellement, reconnaissant que ce qui s'est passé n'a pas été la meilleure façon de traiter la situation, émotionnellement, en venant poser l'acte du pardon ou des excuses pour pouvoir soulager la situation et exprimer son propre ressenti, et ensuite physiquement recréer à nouveau de la proximité sans qu'il n'y ait cette sensation d'hostilité. Ces trois angles sont aussi quelque chose de très important qui permettent de dissoudre les accumulations d'aigreur qui peuvent s'occasionner quand les disputes se répètent et ne sont pas réparées. Vous aurez donc compris, un, il faut sortir de la zone émotionnelle trop forte, deux, faire le tri entre la posture et les intérêts, trois, pouvoir entrer en zone de réparation pour mieux cerner la dispute. Et je pense que dans ce moment de confinement où les rapprochements sont là, nous savons que c'est toujours délicat d'être proche, car cette zone permet aussi bien des échanges hostiles que des échanges fertiles. Donc, faites bien le ménage, soyez conscient de ce qui se passe et utilisez ces trois outils pour pouvoir désactiver ces moments de dispute. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Je vous suggère de liker, de commenter et de partager autour de vous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt.